Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Et je propose que nous fassions notre lecture qui nous situe dans notre réflexion, notre méditation dans le livre de la Genèse. Alors, vous savez, c'est le premier livre de la Bible. Livre de la Genèse au chapitre 22, s'il vous plaît. Et nous allons lire ce texte. Il est question d'un homme qui s'est démarqué à travers sa foi à tel point qu'il a été appelé dans toute l'histoire. Eh bien, le père des croyants, vous avez deviné qui c'est Abraham. Alors, on va lire cela, donc, Genèse, chapitre 22, et nous allons commenter, eh bien, ce récit. « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, il lui répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montures, d'une montagne, pardon, que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac, il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit de loin le lieu. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux, et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Voilà pour cette lecture un peu longue, mais bon, je crois qu'elle était tout à fait nécessaire. Et nous avons beaucoup de choses autour de cette histoire, de ce récit qui a traversé les temps. Et on pourrait simplement dire dès l'abord que c'est une préfiguration, on en reparlera tout à l'heure, mais de ce que Dieu va faire avec Jésus dans ce même lieu, des siècles et des siècles plus tard. Mais là, cette fois, la mort frappera. Celle-ci a été évitée. On pourrait dire que c'est une épreuve. C'est un test. jusqu'où l'homme est capable d'obéir à Dieu. On l'a remarqué, on l'a bien deviné, le bras d'Abraham s'est arrêté. Mais dans une autre circonstance, eh bien, les choses ont été jusqu'à son terme, jusqu'au bout, donnant la mort. Et si vous le permettez, je livre déjà en quelque sorte le secret de ce récit, jusqu'à la porte pour nous donner, nous, la vie. Alors, si l'on reprend eh bien, ce récit, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un sacrifice prémonitoire. Alors, le mot prémonitoire, ça veut dire tout simplement des événements qui sont importants, voire même cruciaux, et qui sont annoncés à l'avance, d'une façon ou d'une autre. Et nous pourrions dire que c'est la passion de Christ avant que celle-ci ne se réalise, comme cela nous est rappelé dans les évangiles, donc dans le Nouveau Testament. Si nous commençons notre lecture, nous trouvons ces trois mots « après ces choses », c'est-à-dire « après ces événements ». Est survenue l'histoire que nous avons eh bien, là devant les yeux. Et qu'est-ce qui s'était passé avant? C'est l'histoire d'Abraham, un homme qui va entendre l'appel de Dieu, qui va obéir, qui va quitter famille et patrie, qui va s'installer dans un endroit que Dieu va lui destiner, et qui va vivre une vie véritablement par la foi. Et toute la vie d'Abraham, c'est une vie qui peut ressembler à ceux et celles qui aiment Dieu et qui veulent vivre pour plaire à Dieu, à travers, c'est vrai, de belles expériences, des choses formidables qui sont offertes à notre foi et que nous réalisons, mais aussi à travers eh bien, cette humanité qui est la nôtre, comme cette humanité d'Abraham qui va faire des erreurs encore de route, qui va, par impatience, ne pas attendre le temps de Dieu, et qui va naturellement emporter les conséquences, qui va devoir, eh bien là, pendant des années, attendre la réalisation de ce que Dieu lui avait dit. Et comme les choses ne viennent pas, eh bien c'est là où Abraham va commettre une faute d'impatience, et comme il attend naturellement la réalisation de la promesse qu'il aurait un fils, vous savez ce qui s'est passé avec Agar, la naissance d'Ismaël, et ensuite eh bien, la naissance d'Isaac, le fils promis. Alors, nous pourrions dire, pour les observateurs que nous sommes de l'histoire biblique, et puis observateurs de notre monde d'aujourd'hui, que le problème n'a jamais été solutionné entre Israël et Ismaël, c'est-à-dire le monde qui est encore en conflit aujourd'hui. Et Abraham, eh bien, devait attendre naturellement la réalisation d'une promesse, qu'il aurait une postérité, pas n'importe laquelle, une postérité qui viendrait véritablement d'un don de Dieu qui descendrait du ciel et non pas de la terre. Alors nous pouvons bien comprendre que cet enfant qui s'appelle Isaac, ça veut dire rire. Vous savez pourquoi? Pour la bonne raison que sa mère était très âgée et Abraham avait 100 ans, imaginez-vous un peu aujourd'hui. Ça fait rire. Alors, ils n'ont pas trouvé peut-être d'autres noms à donner à leur enfant. Rire, Isaac, c'est ça. Alors, donc, on va reprendre le fil de notre récit. Et après ces choses, est arrivée cette mise à l'épreuve. C'est l'heure cruciale du choix pour un homme comme Abraham. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va avoir peur? Est-ce qu'il va craindre? Est-ce qu'il va écouter la voix de Dieu? Est-ce qu'il va aller jusqu'à faire ce que Dieu lui demande, mais jusqu'au bout? C'est-à-dire offrir en holocauste, en sacrifice, eh bien son fils. C'est l'histoire. Et il nous est simplement rappelé que Dieu, à ce moment-là précis, il n'y a pas de contretemps, il n'y a pas d'erreur chez Dieu. C'était ce moment-là qu'il fallait pour mettre Abraham à l'épreuve. Il nous est dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui a parlé. Cette mise à l'épreuve va passer par une demande, par une parole. Et voilà ce que Dieu va demander. C'est terrible. À ce moment-là, Isaac n'était plus un enfant, ça devait être un adolescent ou un jeune homme. Les années avaient passé. Et Dieu va lui dire, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija. Ils habitaient à ce moment-là à Beersheba, c'est-à-dire dans le sud, à l'entrée du Négev, si vous voulez, si vous connaissez un petit peu la géographie, eh bien, de la Palestine biblique. Et il fallait qu'il remonte vers le nord, et dans un lieu qui aujourd'hui est certainement, eh bien, probablement, d'après les commentateurs, qui se trouve tout simplement Jérusalem, le mont Morija. Et il y a des journées de marche pour l'atteindre, de Beersheba jusqu'à le mont Morija, une colline en quelque sorte. Et Dieu va lui demander une chose épouvantable, une chose terrible, qui sera aussi terrible pour Dieu lorsqu'il devra, pour notre salut, sacrifier son fils unique, son propre fils. C'est Jean 3,16. Vous connaissez ? Car Dieu a tant aimé, c'est par amour. Et là, c'est un déchirement de l'amour pour un père, d'obéir à Dieu et dans surtout ce que Dieu va lui demander. Alors, Dieu va prendre le temps de lui dire les choses pour qu'il comprenne bien. Prends ton fils, c'est ton unique. Tu as bien Ismaël, mais Ismaël, ce n'est pas la postérité que je veux. Ce n'est pas celle que je te destine. Ismaël est de la terre. Isaac est promis à avoir une autre destinée, une autre vie. Celui que tu aimes, ce n'est pas que Abraham n'aimait pas Ismaël, mais comme c'était le fils de la promesse et que cet enfant était venu sur la réalisation d'une promesse de Dieu, c'était un miracle, Isaac. Une maman qui a 80 ans et un père qui a 100 ans, imaginez-vous, hein. Ça défie la raison, hein, naturellement. Celui que tu aimes, et cet amour que Abraham avait pour Isaac, c'était un amour qui était marqué finalement par la parole de Dieu, la promesse réalisée. Et ça donnait une envergure particulièrement à son amour pour ce fils-là. Si tu n'as pas compris, Abraham, c'est bien Isaac, et il est nommé Isaac. Alors tu vas le prendre. Tu vas t'en aller dans le pays de Morija, au nord. Et là, et c'est une tragédie, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Il ne sait pas encore laquelle quand Dieu va lui dire « Tu vas partir avec ton enfant. » Mais c'est un peu la même situation qui va se passer et qui s'était déjà passée quand Dieu lui avait dit de quitter son pays d'origine, Ur en Chaldée, et de lui dire « Maintenant tu te mets en marche, tu quittes ta patrie, ta famille, et tu vas dans le pays que je te montrerai. » C'est toujours une marche par la foi. Et nous voyons que les choses sont ainsi. Dieu parle, et qu'est-ce que va faire Abraham dans cette affaire? Nous voyons que dès qu'Abraham entend cette parole, cet appel venu du ciel, dès le lendemain matin, il nous est dit qu'il se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il n'a pas différé. C'est-à-dire qu'il va mettre l'obéissance en premier avant ses sentiments. C'est Dieu qui lui parle. Et Abraham avait certainement quelques habitudes de savoir que quand Dieu parle, il ne trompe pas. Il ne ment pas. Il n'y aura pas de confusion. Il n'y aura pas de déception. Et ça, il le sait au fond de son cœur. C'est pourquoi, dès le moment où il reçoit l'appel de faire cette chose épouvantable, paraît-elle, eh bien, il ne veut pas laisser ses sentiments le déborder. Il dit, il faut que je parte tout de suite. Et dès le matin, à l'aurore, eh bien là, il va se mettre en route. Il va prendre avec lui certainement deux de ses serviteurs en qui il a totalement confiance. Alors il prend du bois et il part pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Et pour l'instant, il ne sait pas où il va, sinon le mont Morija. Premier jour de marche. Imaginez-vous ce qui peut se passer dans un cœur de père qui doit accomplir un tel acte. C'est épouvantable, on ne veut même pas y penser. Deuxième jour de marche. Peut-être que là, certaines idées peuvent se faire jour en disant, mais est-ce que ce ne serait pas mieux de faire demi-tour maintenant? C'est terrible ce que l'on me demande. Est-ce que c'est bien toi, Dieu, dans le ciel, qui me demande une telle chose? Ça peut être très troublant. Le troisième jour, Abraham, en continuant sa marche vers le lieu qu'il doit atteindre, lève les yeux et il voit de loin, tout simplement, l'endroit que Dieu va lui montrer, c'est ici. Le mont Morija existe. Actuellement, c'est la mosquée qui est à Jérusalem, dans le cœur de Jérusalem. Alors, beaucoup de discussions, beaucoup de disputes, beaucoup de querelles à traverser l'histoire par rapport à tout cela. Là où c'est le dôme du rocher, en quelque sorte. C'est une petite colline, hein. Mais enfin, quand on est sur le mont des Oliviers, on voit bien que il y a quand même un beau monticule, hein. Naturellement. C'est là où, eh bien, là, on construira aussi le temple de Jérusalem. Donc, le troisième jour, Abraham a vu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs qu'il avait amené avec lui, qui avait fait donc ces trois journées de marche, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » C'est très instructif ce qui est dit. Je voudrais encore une fois de plus souligner la foi d'Abraham. Abraham a reçu le titre de père des croyants, et ce n'est pas pour rien. Et il va demander tout simplement à ses témoins, qui sont ses serviteurs, de ne pas aller plus loin. Vous restez en bas, nous allons aller là-bas. Et Abraham ne va pas raconter l'histoire, parce que c'est une réalité. Il dira bien, moi et mon fils, nous allons aller jusque là-bas et nous allons adorer. C'est ce qui s'est passé de fait. Comme s'il y avait ce pressentiment par l'esprit qui l'animait, que finalement, eh bien, il se passerait quelque chose. Pourtant, ils y allaient pour un sacrifice sanglant. Alors on est très loin de l'adoration, hein, pour ce que Dieu fait, et surtout pour ce que Dieu est, parce qu'on adore réellement Dieu pour ce qu'il est. Et quand on connaît les attributs de Dieu, quand on connaît ses qualités morales, quand on connaît ses qualités exclusivement divines, on se dit, mais c'est pas possible. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est un Dieu de justice, il ne peut pas permettre une telle chose. Un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion. Alors nous irons jusque-là pour adorer mon fils et moi-même. Et vous avez remarqué avec moi qu'il pousse les choses d'une manière tellement forte, marquant et mettant en relief d'une manière admirable la foi d'Abraham, nous reviendrons vers vous. Alors on ne comprend plus parce qu'on s'est dit, mais pourtant les paroles de Dieu sont dites et il semblerait qu'au fond du cœur d'Abraham, il y ait cette certitude et cette assurance, cette conviction intérieure. Nous reviendrons. Il n'est pas dit, je reviendrai vers vous, après avoir fait cet acte d'une cruauté terrible. Nous reviendrons auprès de vous. Alors Abraham a pris le bois pour l'Holocauste, il le chargea sur son fils, il porta dans sa main le feu et le couteau. Imaginez-vous le tableau. Le feu est dans une main, parce que c'est un Holocauste, c'est un sacrifice. Un sacrifice par le feu, sur un autel. Et le couteau, c'est... Je passe, je ne fais pas de commentaires. Et ils marchèrent, tous deux, ensemble. Et là, il y a quelque chose de formidable à souligner, parce que vous avez remarqué avec moi, nous lirons deux fois cette phrase, dans ce paragraphe. Ils marchèrent tous deux, ensemble. Il y avait comme une harmonie et un accord, voire presque dans la perfection. Alors, ils ont marché ensemble. Ils ont marché pour obéir à Dieu, l'un pour tuer et l'autre pour mourir. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, lui dit, « Voici le feu et le bois. » Donc ce n'était pas un petit enfant, c'était un adolescent vraisemblablement, qui prenait conscience de la situation. « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Alors nous remontons naturellement dans les temps les plus anciens de l'histoire de l'homme, ou pour complaire au Dieu au pluriel, mais à Dieu au singulier, le Dieu qui était connu d'Abraham, eh bien il y avait des sacrifices d'animaux, tout simplement. Pas des sacrifices humains, mais des sacrifices d'animaux. Enfin, en ce qui concerne, naturellement, Abraham. Et il va poser la question, mais où est l'agneau de l'Holocauste? Ce mot agneau reviendra tout au long de l'histoire d'Israël. Et il est au cœur même de l'histoire du Nouveau Testament. On le verra tout à l'heure. Où est l'agneau? Où est-il? Celui qui doit mourir. Celui qui doit verser son sang. Celui qui doit être mis sur l'autel. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. pour une troisième fois, pour une quatrième fois, pour une cinquième fois, nous voyons encore la manifestation de la foi inébranlable d'Abraham. Il répond à son fils, mais Dieu va pourvoir. Dieu va donner. Dieu va faire. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Vous savez, pour que les choses réussissent, j'ouvre une parenthèse, peut-être je m'éloigne du texte, mais pour qu'une chose réussisse, pour que Dieu puisse donner sa bénédiction à l'homme, pour que nous puissions obtenir la faveur, donc la grâce de Dieu dans notre vie, il faut que l'homme et Dieu et l'homme soient en plein accord. Et la seule chose que Dieu peut agréer, c'est notre foi, où nous nous mettons d'accord pour marcher avec Dieu. Ça, c'est les principes de l'Évangile. Il n'y a pas autre chose. Parce que Dieu, je le sais personnellement, veut bénir l'homme. Il aime l'homme pour le sauver, pour le bénir, pour le guérir et lui apporter tout ce dont il a besoin. Mais le gros problème, c'est l'homme qui ne veut pas marcher. Ou c'est l'homme qui ne veut pas croire. Et qui ne veut pas marcher ensemble. Il y a une belle histoire qui remonte au début de l'humanité. Il s'agit d'un homme qui s'appelle Enoch. Dès les origines de l'homme, il nous est dit que Enoch marcha avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, marcher avec Dieu? Ça veut dire tout simplement de lui faire confiance. Et ce soir, nous sommes confrontés avec cette histoire d'Abraham pour nous montrer que si véritablement, et nous attendons quelque chose de la part de Dieu, et Dieu est capable de nous donner les choses les plus inouïes, inattendues, merveilleuses, et j'en passe, eh bien, il faut absolument que nous puissions marcher avec lui par la foi. Ça ne peut pas marcher autrement. Et nous voyons que le Père et le Fils, Abraham et Isaac, comme le Père dont nous allons parler tout à l'heure dans le Nouveau Testament, Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ vont marcher ensemble pour notre propre salut. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Autrement, rien ne se réalise. On continue. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel devant son fils, devant les yeux de son fils. Quelle question! Mais où est l'agneau? Tu fais un autel, tu as le feu, tu as le couteau, mais qu'est-ce qui va se passer? Alors je ne sais pas si véritablement Isaac avait pris toute la dimension, la compréhension de ce qui allait arriver, de ce qui allait se faire. Alors il éleva un autel, il rangea le bois. Alors là, il a compris Isaac. Hein. Il a pris son fils, il l'a lié. Ça ne laissait aucun doute. Il a pris son fils, il l'a lié et il l'a mis sur l'autel. Comme un sacrifice, peut-être que les choses avaient déjà été vues, hein, parce que c'était des coutumes de l'époque. Mais ce n'était pas un homme, ce n'était pas un enfant. C'était des animaux quoi, pour lesquels on faisait ce genre de démarche et de sacrifice. Alors il l'a mis sur l'autel, par-dessus le bois. Et le moment fatidique, le moment le plus insupportable de cette histoire, c'est qu'Abraham étendit la main, il a pris le couteau, et le mot est terrible, pour égorger son fils. Cette lecture est épouvantable. Chaque fois que je la commande, je peux m'imaginer ce que ça peut représenter un père et un fils. À la fois pour le père dans son cœur, et le fils dans le regard vers son père, un regard d'effroi et de terreur. Il faut le faire prendre un couteau et l'élever au-dessus d'un enfant, de son propre enfant, son unique, celui qu'il aime. Et là, il va se passer quelque chose dans ce geste. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Ce qui est extraordinaire dans ce cheminement d'Abraham, c'est que tout est ponctué par Dieu qui parle à l'homme. Au départ, c'était « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va dans là où je te montrerai, dans le lieu que je te montrerai. » Au moment où l'accomplissement de ce geste va véritablement eh bien, se réaliser, où il va s'accomplir, Dieu part tout à nouveau. Il s'était passé déjà 3-4 jours, et imaginez-vous ce que ça pouvait représenter, ce que ça pouvait être, comment cela pouvait être vécu par Abraham, parce que si c'était fait dans un instant, bon, ça va très vite, et puis on sort du cauchemar, hein. Mais là, ça dure. Et il nous est dit, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et lui dit, Abraham, Abraham. Alors on appelle ça, cette intervention, et je vais rester dans le cadre en mettant à la fois l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en parallèle, puisque c'est la même histoire. C'est l'histoire d'Abraham et de son fils Isaac, c'est comme l'histoire du Père Céleste avec Jésus-Christ, son fils unique. On appelle ça une christophanie, apparition dans l'Ancien Testament de Christ. C'est en quelque sorte un prélude. L'ange de l'Éternel l'appela des cieux et lui a dit. Alors cet ange lui a dit ceci, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. L'obéissance est portée à son paroxysme. Imaginez-vous ce père avec le couteau à la main, prêt à, avec la force que l'on peut avoir, pour tuer. Et à ce moment-là, alors que la main est, est vers le ciel, eh bien, c'est comme, à travers cette parole, c'est comme si un bras retenait, finalement, eh bien, le couteau à ce moment-là, et une voix qui lui dit, mais ne lui fais rien. Arrête. Arrête parce que ce n'est pas ce que je veux. Arrête parce que ce n'est pas la mort d'Isaac. Et moi, je ne veux pas que tu deviennes un criminel, parce que je voudrais vous dire que quoi qu'il en soit, à travers les siècles, si on a souvent identifié Dieu à la mort des hommes, soit à travers les séismes, à travers les guerres, à travers les choses épouvantables de feu et de sang, eh bien moi vous avez la preuve, et les hommes ont la preuve, que Dieu n'est pas un Dieu qui tue. Ce n'est pas le Dieu de la mort, c'est le Dieu de la vie. La preuve. Mais l'homme a perdu la vision finalement de ce Dieu-là pour en faire un Dieu vengeur, un Dieu qui tue, un Dieu exterminateur. N'avance pas ta main, ne lui fais rien. Et avec cette suite, car je sais, dit l'ange de l'Éternel, donc entendez par là, dit Dieu, alors je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Seigneur, c'est épouvantable de me demander de te craindre à ce point. C'est terrible. Je vous ai parlé tout à l'heure d'épreuves cruciales autour d'un choix. Et il arrive dans notre vie que quelquefois il nous faille choisir. Et c'est très très difficile. Et là, c'est, pour en dire, un cas de paroxysme. Dieu peut dire à Abraham, mais je sais. Je te connais. Tu en as donné la preuve. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Cette crainte de Dieu qui n'est pas la peur, mais qui est ce respect de Dieu, ce respect de sa parole, jusqu'à lui obéir, jusqu'à son terme. Et Dieu ne va pas lui demander ça. C'était une mise à l'épreuve. C'était la preuve de l'amour d'Abraham, de l'obéissance d'Abraham et de la foi d'Abraham par l'épreuve. La preuve par l'épreuve. Que tu crains Dieu, que tu ne l'as pas refusé ton fils, ton unique. Tu ne l'as pas refusé, tu l'as donné. Tu étais prêt à le donner, tu étais prêt à le voir mourir, tout simplement. Mais comme Dieu est un Dieu qui intervient dans la vie des hommes, si nous le voulons bien, parce que nous marchons avec lui, parce que nous lui faisons confiance, il ne va pas nous laisser dans la détresse. Abraham leva les yeux à ce moment-là, et il a vu, derrière lui, un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. C'est la clé, c'est le verset clé finalement de toute notre histoire, à travers ce qu'il nous est dit. Abraham a levé les yeux. Il a entendu la parole, ne lui fais rien. Je sais maintenant. Et il a vu qu'il y avait là un animal qui était pris dans un buisson. Ça nous rappelle pas mal de choses, le buisson ardent, vous comprenez plus tard. Hein, un buisson qui est en feu et qui ne se consume pas. Et dans ce buisson, c'est l'image du Dieu qui va parler à Moïse à ce moment-là. Toujours parler. Alors un bélier retenu dans ce buisson par les cornes, et Abraham a compris. Il s'est précipité pour aller prendre le bélier, et il l'a offert en holocauste. C'est lui qui était monté sur l'autel, il l'a, on peut dire, lié. Il l'a monté sur l'autel, et il l'a mis à la place de. Si je vous dis, et vous le savez déjà naturellement, que nous avons en quelque sorte la préfiguration. C'est une réplique avant le temps, ou c'est une avant-première, si vous voulez, de ce qui se passera des siècles et des siècles plus tard, lorsque Christ, lorsque Jésus, acceptera la mort sur le mont Golgotha, qui est à côté de Morija, et qui fera ce que nous n'avons jamais pu faire, ce que Dieu n'a pas voulu faire à Abraham, et que le Père, Père Céleste, celui qui est dans le ciel, fera avec son Fils unique, celui qu'il aime, pour que véritablement nous ayons la vie si nous croyons en lui. En quelque sorte, une question avait été posée, mais où est l'agneau ? Ben, l'agneau, eh bien, c'est celui qui a été annoncé par Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et il fallait qu'il y ait une expiation. Parce que, à travers toute l'histoire biblique, que ce soit dans l'Ancien Testament particulièrement marqué, et dans le Nouveau Testament avec la passion du Christ, il faut que, pour qu'il y ait expiation du mal et du péché, il faut que le sang coule. Et jusqu'alors, toute la tradition, le cérémoniel israélite était fait avec une multitude de sacrifices. D'abord dans la tente d'assignation, dans le désert, et puis après dans le temple de Jérusalem, jusqu'à ce mont Golgotha où le sang a coulé une fois pour toutes, pour tous les hommes, dans toute l'humanité, pour faire l'expiation des péchés de l'humanité, complètement et totalement. Alors, c'est l'image de ce bélier qui est la retenue, qui ne peut pas se défaire, parce qu'il va avoir un rôle à jouer à ce moment-là. Il va être en quelque sorte l'emblème du sacrifice. Et Abraham va le faire, il va prendre le bélier, il va l'offrir à la place d'eux. Et ça, ça devrait parler à toute l'humanité. Et si nous sommes un tant soit peu attentifs à la parole de Dieu, à notre conscience, à ce que nous sommes, les uns et les autres, eh bien c'est exactement ce que Dieu nous enseigne et ce que Dieu nous appelle à vivre à la place d'eux, pour vous dire d'une manière concrète, pour moi, pour vous, pour tout le monde, pour tous ceux qui croient, c'est que Christ est mort à notre place. Il est l'agneau qui a été mis, finalement, sur l'autel du sacrifice pour faire l'expiation de mes péchés, de vos péchés, et c'est lui qui va véritablement être le substitut afin que je ne meure pas de cette mort éternelle, mais que je puisse vivre éternellement, et à moi de le croire, et à moi de l'accepter, et de le recevoir. C'est l'histoire, tout simplement. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jireh, ou plus communément, depuis le XVIe siècle de notre ère, Jéhovah Jireh. Ce qui veut dire, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Oui. Et ça a été pourvu. Dieu a pourvu au remplacement d'Isaac qui allait être égorgé par un bélier. Dieu a pourvu, il l'a donné, tout simplement. Et dans la solution de la perdition humaine, Dieu a pourvu en envoyant son Fils, qui s'est incarné, Dieu s'est incarné, se faisant homme comme nous le sommes, pour mourir à notre place, pour que nous soyons sauvés pour l'éternité. C'est exactement le processus. L'Éternel a pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et lui a dit, « Je le jure par moi-même. » Imaginez-vous que Dieu jure, mais il peut le faire. « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. » C'est un serment. Qu'est-ce que nous pourrions dire? Une certification? Non, il n'y a pas de mot qui puisse exprimer. Eh bien là, cette véracité de cette parole, quand Dieu dit quelque chose, il ne manque pas de l'accomplir. Parce qu'il tient parole, parole éternelle, parce que tu as fait cela. Eh bien, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, alors à ce moment-là, ça sera la bénédiction. Vous vous souvenez? Ils marchèrent tous les deux ensemble. Et Dieu lui dit, parce que tu as marché avec moi, eh bien je te bénirai, je multiplierai ta postérité, etc., etc. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé. Oui. Et vous savez, on ne remerciera jamais assez Jésus de ne pas avoir refusé d'accomplir cette mission et d'avoir fait ce qu'il a fait. Parce qu'aucun homme, Aucun moyen humain n'aurait pu satisfaire la justice de Dieu. Les hommes l'ont essayé à travers toutes sortes de religions, toutes sortes de façons, traditions et autres, et ça ne peut pas contenter, ça ne peut pas satisfaire. Finalement, eh bien, la justice de Dieu. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et le sable de la mer qui est au bord. Enfin, comme les étoiles et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Imaginez-vous s'il y a un peuple qui a traversé les millénaires. C'est le peuple d'Israël dont on parle encore aujourd'hui et dont on va encore parler beaucoup. Parce que tout a commencé par là hein, et tout finira par là. Vous savez, quand le livre de l'Apocalypse nous parle de la cité de Dieu, de la nouvelle Jérusalem, de la place qu'Israël aura dans le millénium, par exemple, la nouvelle Jérusalem, eh bien, c'est toute une histoire qui se perpétue. Et vous savez, les nations, les Ismaël, ont toujours voulu détruire Israël. Et ça continue encore aujourd'hui. Mais Israël ne sera jamais détruit. Il restera et subsistera. Alors, ta postérité sera multipliée. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Imaginez-vous que nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Non pas parce que nous le sommes par l'espèce ou la race, mais nous le sommes sur une base qui préside à toute l'histoire de l'Ancien Testament et qui aboutit finalement en triomphe dans le Nouveau Testament, c'est la foi. C'est cela. Parce que tu as obéi à ma voix, eh bien les nations, nous ne sommes pas juifs, mais nous sommes des peuples parmi les nations. Mais il y a une chose qui nous réunit tous ensemble, Israël et les peuples de croyants, c'est finalement notre foi dans la grâce qui nous a été faite. Tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba. Il leur avait dit, nous allons adorer là-haut. Parce que c'est une forme d'adoration. Cette rencontre avec l'ange de l'Éternel, cette conversation qu'il a avec Dieu en réalité, c'est l'adoration. Et il avait dit, mais nous reviendrons vers vous. Et ils sont revenus. Car Abraham demeurait à Beersheba. Beersheba, ça veut dire le puits du serment. Scellé. C'est quelque chose qui est fixé. C'est quelque chose qui s'est arrêté. C'est un serment et il est immuable. Il ne disparaîtra jamais. Alors, sacrifice prémonitoire. Cette histoire de l'Ancien Testament, qui nous est présentée comme le bourgeon d'une fleur qui n'est pas encore épanouie. En quelque sorte, c'est ça cette histoire. Et cette fleur va s'épanouir un beau matin de Pâques, lorsque Christ ressuscitera. Dans toute sa grandeur et dans tout son triomphe. Et j'aimerais simplement terminer par cette petite note qui nous est donnée dans le livre des Hébreux. Si vous le permettez, c'est véritablement la réalisation de tout ce que nous avons dit ce soir. Dans Hébreux chapitre 11 et au verset 17, il nous est dit ces mots, tout simplement, et je finirai sur la conclusion. Il nous est dit ceci, c'est par la foi. Hébreux chapitre 11, verset 17, c'est par la foi. Une foi audacieuse, une foi courageuse, une foi qui ne s'arrête pas par les sentiments, qui ne s'arrête pas par la raison, qui ne s'arrête pas à travers, devant la peur ou la crainte. C'est une foi qui ne regarde qu'à Dieu et à Dieu seul. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Mes amis qui écoutez cette parole, vous avez reçu les promesses de Dieu, tenez bon. Lorsque nous sommes confrontés à des promesses que Dieu nous fait dans notre cœur, il y aura toutes sortes de défis. Vous voulez monter en haut de la montagne pour avoir la victoire? Eh bien, vous verrez que, avant d'arriver en haut, au sommet, il faut déjà faire l'escalade. Et toute escalade, c'est une épreuve hein, pour ceux qui grimpent, pour les alpinistes. Mais néanmoins, lorsque nous sommes arrivés là-bas, alors à ce moment-là, nous voyons combien notre Dieu est bon, combien il est merveilleux, combien il y a une bénédiction qui fera de nous, eh bien, des hommes, non pas exceptionnels, mais des hommes d'exception, par la grâce qui nous a été faite, de voir la puissance, le miracle de Dieu, le surnaturel de Dieu. Alors, il avait reçu les promesses, à qui il avait été dit, en Isaac tu auras une postérité appelée de ton nom. Et il pensait que Dieu est puissant. C'est ce qui a motivé Abraham avant le temps, même pour ressusciter les morts. On ne parlait pas de résurrection des morts à l'époque. On était loin de la résurrection, de cette puissance de Dieu qui fait vivre, qui fait revivre un homme qui est mort. Parce qu'on parle de résurrection, bien qu'il y ait eu quelques prémices dans l'histoire de l'Ancien Testament, mais le mot résurrection a véritablement éclaté lorsque Christ, mis à mort dans le tombeau, la mort n'a pas pu le retenir. Et c'était la foi, avant que les choses soient révélées, il pensait à Abraham que Dieu était puissant même au point de ressusciter les morts. Il pensait que même après avoir enfoncé son couteau dans le cœur de son fils, eh bien Dieu était capable encore de lui donner la vie. Et bien c'est exactement ce qui se passe pour notre humanité. Notre humanité, elle est morte. Nous avons reçu le couteau, le coup mortel du péché au fond de notre cœur, dans notre conscience, dans notre esprit, dans notre corps et partout. Et nous croyons que Dieu, à travers le sacrifice de Jésus, est capable de nous donner la vie. Et c'est ce qu'il a fait. Et ça, je le saisis par la foi. Et c'est une grâce. Et c'est le fruit, le produit de son amour. C'est la foi d'Abraham. Et c'est notre foi à chacun. Nous ne sommes pas destinés à rester enfermés dans la mort. Après notre mort commence une autre vie pour nous. Parce que nous le croyons. Parce que nous sommes convaincus que ça ne s'arrête pas là. Et c'est formidable, c'est l'espérance des chrétiens. Puissant pour ressusciter les morts, aussi il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Les deux textes s'accordent ensemble. Et les deux textes introduisent le troisième, où vous le connaissez si bien, où il nous est dit que Dieu a tant aimé. Un père aime son fils. Dieu aime ses créatures. Il aime les hommes. Alors, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On retrouve les mêmes mots. Afin que quiconque croit, parce que c'est la foi, il n'y a pas autre chose. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors que Dieu nous bénisse. Je crois que c'est un des messages les plus grands et les plus beaux, les plus majestueux. Message divin, message céleste que contient l'Évangile et que nous partageons ce soir modestement. Mais c'est quelque chose de formidable. Alors, on pourrait simplement dire et reprendre les paroles de Jésus lorsqu'il a rencontré un tel ou une telle. Et il dira, par exemple, pour Zachée ou pour d'autres, il dira, voici un fils et une fille d'Abraham. Par cette filiation qui est la filiation spirituelle de la foi, parce que nous recevons cette grâce. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne son... qu'il nous donne... son esprit, et que nous comprenions toute la dimension de son amour, eh bien nous allons prier maintenant. Nous allons demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier parce qu'il n'y a pas de plus belle histoire, il n'y a pas de plus belle préfiguration que cette histoire qui nous a conduit sur le chemin de Morija, qui nous a fait gravir la montagne avec un homme comme Abraham, qui pouvait, Seigneur, se demander pourquoi Dieu lui demandait une telle chose. Et Seigneur, tu n'as jamais demandé cela à un homme. Même Abraham, tu ne lui as pas demandé puisque tu l'as arrêté. Mais une chose qui est certaine, c'est que si le couteau a été arrêté, Seigneur, au-dessus du cœur d'Isaac, à Golgotha, le châtiment de la mort, il n'y avait aucune main, aucune parole pour arrêter véritablement l'exécution de Jésus, la crucifixion de Jésus. À tel point que même Christ crucifié, attaché à la croix, pouvait dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eh bien Seigneur, Christ a été abandonné pour quelques instants, quelques moments, tout simplement Seigneur, pour mourir à notre place, parce qu'il fallait que l'agneau soit immolé. Il fallait que, en effet Seigneur, quelqu'un prenne notre place, comme ce bélier qui a été mis sur l'autel de Morija. Seigneur, eh bien nous croyons qu'il ne s'agit pas d'un animal pour nous, mais qu'il s'agit d'un homme qui est un Dieu, qui est Dieu, le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, qui est mort à notre place. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie de ce que tu m'as rendu capable de croire à un tel message. De ce que tu m'as rendu capable, Seigneur, de me faire connaître une telle histoire. Et la seule chose que tu me demandes, ce ne sont pas mes mérites et mes qualités d'homme. Ce n'est pas parce que je suis quelqu'un de particulier, mais c'est parce que véritablement, eh bien, je prends conscience que je ne suis rien, et que toi, tu es tout, et que tu as mis dans mon cœur cette foi pour croire pour que je puisse être sauvé. Et je suis sauvé pas par moi-même, pas par mes moyens, mais je suis sauvé tout simplement parce que je crois que Jésus est mon sauveur, qu'il est mon rédempteur, qu'il est mon substitut, et qu'il a pris véritablement, Seigneur, tous mes péchés, qu'il a fait l'expiation de mes fautes. Merci Seigneur, tu nous bénis ce soir et tu nous donnes de comprendre que la foi est un riche trésor pour le cœur qui veut véritablement s'engager à faire confiance. Oui Seigneur, répands la foi. Donne-nous plus de foi Seigneur. Donne-nous de croire davantage encore en toi. De croire que même frappé par la mort, eh bien la vie peut en surgir. Merci Seigneur, notre Dieu et notre Sauveur. Merci Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.